Si je te dis appel de vente, peut-être que tu penses à transpiration, mains moites, gorge serrée et à un moment désagréable. Je te rassure, je pensais comme toi avant et je passais vraiment pas un agréable moment. Heureusement, depuis le temps, ça a changé, je me suis formé, j'ai appris à aimer la vente et aujourd'hui, je voudrais te partager des erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la cinquième erreur que j'ai faite, je l'ai faite avec un prospect qui a une bonne hype sur LinkedIn quand même, mais j'ai fini par décider de ne pas travailler avec lui et tu sauras pourquoi. Cette vidéo, c'est un retour d'expérience, donc tous les points de vue que je vais te présenter ne sont pas tout noirs ou tout blancs, c'est toujours des nuances de gris, donc je ferai en sorte de nuancer mon propos au maximum. La première erreur que j'ai faite, c'était de prendre n'importe qui en appel. Donc concrètement, j'ai fait comme tous les gentils consultants au début, j'avais un calendrier totalement ouvert, tu pouvais prendre rendez-vous, me booker un call quand tu voulais, en fonction des plages horaires disponibles que j'avais renseignées. Et j'ai rien contre calendrier en tant que tel, si tu places le calendrier au bon endroit dans ton tunnel de vente, c'est beaucoup plus intéressant. Si tu le mets tout en haut de ton tunnel dans ta biographie Instagram, ici tu ouvres la porte à tout le monde et à n'importe quel touriste qui peut booker un rendez-vous avec toi. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en amont, je n'avais pas mis de filtre. Par exemple, si tu mets ton calendrier après une masterclass qui présente ta proposition de valeur, bah là forcément, tu auras des appels qualifiés. Mais si tu le mets au tout début de ton process de vente, ça peut être dérangeant et tu peux te retrouver avec des touristes qui t'appellent pour tout et pour rien. Ou pas forcément des touristes, mais des personnes qui ont peut-être mal compris ta proposition de valeur et qui vont te solliciter pour des projets qui n'ont rien à voir avec ton domaine de compétences. Et couplé à ça, au tout début, tu as rarement un positionnement hyper lisible, à part si tu te fais accompagner. Mais quand tu commences un peu de ton côté, tu as rarement un positionnement qui est très lisible. Donc si tu combines un positionnement peu lisible avec un calendrier ouvert en début de tunnel, tu vas te retrouver avec des personnes qui veulent que tu règles tous les problèmes de leur vie ou qui cherchent juste une oreille à qui parler ou des gens, et moi je trouve ça, je vais pas dire que c'est le pire, mais vu que je suis pas trop téléphone, c'est assez marquant pour moi, c'est les gens qui veulent t'appeler pour te dire un truc qu'ils auraient pu te dire par mail, tu vois. Par exemple des demandes de partenariat, franchement, fais un mail à la personne, t'as pas besoin de booker un calendrier. Dans ma vision des choses, tu peux d'abord faire une demande écrite, brève, par mail, par message. Tu peux même, à la limite, aller envoyer un message vocal, même si je déteste ça. Mais je trouve que le fait de s'appeler, donc d'être tous les deux en synchrone, au même endroit, au même moment, de se bloquer tous les deux juste pour se dire un truc aussi simple qu'aurait pu tenir dans trois lignes d'un mail, c'est productif pour personne. Et donc, comme je te disais un peu plus tôt, si tu as un positionnement flou, eh bien les demandes qu'on va te faire, aussi bien des partenariats que de potentiels clients, vont être totalement à côté de la plaque. Elles ne vont pas rentrer totalement dans ton scope d'offres et du coup, tu vas commencer à t'éparpiller un peu à droite, à gauche. Mais à mon sens, il faut rester focus. Et là, tu vas me dire oui, mais comment je fais pour être focus en amont et pas me laisser dévoyer par des propositions? C'est simple, soit tu te fais accompagner pour avoir un positionnement clair, lisible et attractif, soit tu fais le truc de ton côté et tu vas prendre peut-être un peu plus de temps. Mais ce que je t'encourage à faire, c'est d'être beaucoup plus empirique, d'aller chercher ta proposition de valeur au contact de ton client idéal en multipliant les appels pour récolter de la donnée et affiner ton positionnement. C'est tout l'inverse du conseil que je te donne depuis tout à l'heure, mais parce qu'on est dans une situation différente, une situation où tu te cherches. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est de faire des appels d'une heure et demie, un match de foot, c'est beaucoup trop. Je voyais pas du tout le temps passer. Parler pendant une heure et demie de business avec quelqu'un qui avait des soucis pour le développer, pour moi c'était super, une énigme supplémentaire à résoudre. J'avais le cerveau en ébullition, j'étais déjà dans la proposition. Ouais, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça. Et aujourd'hui, dans mes appels de vente, je suis toujours un peu comme ça. J'ai toujours une partie où je projette le client dans la situation finale où je lui dis si tu faisais comme ci, peut-être que tu arriverais peut-être à tel résultat. Parce que c'est aussi important de donner à son prospect les raisons de croire en votre expertise et lui donner un échantillon de ce dont vous êtes capable et de le projeter déjà dans les premières étapes de votre collaboration. Donc ouais, j'ai pêché en faisant des appels d'une heure et demie. Aujourd'hui, je fais des appels de 30 minutes parce que le souci supplémentaire, c'est que quand tu pars dans des appels d'une heure et demie, tu rentres très vite dans le syndrome du meilleur ami, quoi. C'est-à-dire que tu te fais friendzoner, mais version business. Le gars, il commence à te raconter toute sa vie, pourquoi il est là, pourquoi il est né, pourquoi sa mère l'a appelé comme il l'a appelé. C'est important de rester humain, de pas être robotique pendant l'appel, d'ajouter des touches d'humour, voilà, de détendre la personne, de se mettre sur le même niveau d'énergie que la personne. Mais voilà, toi derrière, t'as une journée à gérer, tu peux pas te permettre de faire trois appels d'une heure et demie par jour, c'est pas possible. Ce qui nous amène du coup au troisième point qui est le manque de structure pendant les appels. Parce que si tu commences à mener la conversation comme si tu parlais à un membre de ta famille, alors là mon gars, franchement tu vas jamais le terminer ton appel. Il faut poser un cadre dès le début de l'appel, tu lui dis voilà, on va échanger pendant 30 minutes sur ton projet et sur une éventuelle collaboration. Ça va se passer en trois temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps. Et voilà, après, pas besoin d'être rigide, bien sûr. Tu vas pas dire, attention, time, chronomètre, on s'arrête, on passe à la deuxième phase. Tu fais en sorte d'identifier les moments où il faut changer de step. Généralement, je propose à mon prospect de se présenter, de présenter un peu son projet, pourquoi il en est arrivé là. Moi, je rebondis sur ce qu'il me dit, je lui pose des questions, tu vois, je commence à faire un peu mon diagnostic. Et ensuite, à la fin, je me représente, parce que souvent, les gens qui sont au téléphone avec moi, ils savent déjà qui je suis, parce qu'ils me consomment via le contenu. et je finis par présenter l'offre, faire une proposition en fonction de si je sens la personne ou pas, si je sens que ça match et si je sens que je peux vraiment l'aider, tu vois, parce que c'est important que ça aille dans les deux sens. C'est comme les coachs en développement personnel, il y a plein de problématiques qu'ils ne peuvent pas traiter, alors qu'ils ont des pathologies mentales, tu vois, que le coach en développement personnel ne peut pas régler. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de valider le développement personnel, hein, attention. Mais c'est pour te donner un exemple, juste pour te montrer l'écart entre les deux. Et là, normalement, tu vas me dire en commentaire, et pourquoi tu valides pas le développement personnel? Bon, peut-être qu'on ferait un épisode un jour, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tu dois aussi également poser le cadre en amont, c'est-à-dire avant l'appel, et inviter la personne, inviter le prospect à être dans un lieu calme et d'être dans de bonnes dispositions pour pouvoir discuter. Tu vois, typiquement, j'ai le souvenir d'un mec qui était à la salle de sport, quoi. J'entendais d'autres mecs parler d'haltères, de muscu, lui, il s'arrêtait, il disait, oh, ça va et tout, tu vois. Tu sais, je me dis, mais attends, moi je suis là, je suis en chemise, je suis au téléphone, je te parle, et toi t'es là, t'es en débardeur transpirant à la musculation, tu t'adresses à un consultant, tu veux qu'il t'aide pour développer tes affaires, il faut te mettre en position aussi, il faut respecter les gens, tu vois. Mais c'est de ma faute, parce que j'ai pas posé le cadre en amont, pour moi c'était tellement logique, donc forcément si j'appelle quelqu'un, je me pose dans un environnement calme, j'ai préparé l'appel en amont, j'ai préparé mes questions, je suis opérationnel. Voilà, mais ça, c'est du professionnalisme que tout le monde n'a pas. Ce même gars, il a fait le combo, c'était incroyable. C'était, franchement, je crois que c'était l'un des pires appels. Il a fait le combo, il a fait salle de sport et à la fin, il est sorti, il est allé au grec, il est allé commander son sandwich. Donc voilà, entre deux phrases, j'entendais « Oui, chef, rajoute un peu de sauce, tout ça ». La prochaine fois, t'as qu'à m'appeler chez un Hanout aussi, non? Quand tu fais tes courses au Hanout. Et en fait, le problème de ça, tu vois, je te disais, il faut prévenir les gens en amont. Oui, il faut prévenir les gens en amont. Parce que parfois, ils n'osent pas dire non. C'est-à-dire que tu vas leur proposer un créneau horaire. Des fois, les gens n'osent pas décaler. Et du coup, ben, tu vas te retrouver au milieu, au milieu de leur journée quand ils sont dans un environnement pas du tout propice aux appels. Et ça va être compliqué à gérer. Je t'invite à pitcher quelqu'un, à essayer de closer quelqu'un quand derrière t'entends des gros bruits ou t'entends des enfants crier, enfin c'est faisable, mais ça vous met pas tous les deux dans les meilleures conditions, quoi. La quatrième erreur pour moi, ça a été de vendre des caractéristiques au lieu des bénéfices. Au début, tu galères tellement à bien packager ton offre qu'à tes yeux, il y a que ça qui compte en fait. Il y a que les caractéristiques, ton offre en mode bullet point, alors tu vas avoir droit à ça, plus ça. En fait, tu vas parler que du technique, mais pas forcément des résultats. Et en fait, le mec, il s'en fout des caractéristiques, il est là pour le résultat. Après, les caractéristiques, ce sont des modalités, ce sont les moyens qui vont amener au résultat, mais il faut présenter beaucoup plus le résultat que les moyens en question. Parfois aussi, personnellement, je détaillais trop le contenu des modules, des programmes d'accompagnement que j'avais, ce qui avait tendance à perdre un peu mon interlocuteur, dans le sens où il va se dire « Ah ouais, il y a vraiment trop de trucs à faire, c'est des gros gros travaux, là on va beaucoup bosser, le chantier est trop gros, laisse tomber, je vais pas m'engager avec ce mec, je préfère aller vers quelqu'un qui me présente un chemin plus lisse, quoi. » Bon, d'une certaine manière, ça fait un peu le tri, mais c'est aussi ton boulot à toi en tant que consultant de faire en sorte que le chemin soit le moins compliqué possible pour ton client, parce qu'on peut atteindre des résultats sans que tout soit compliqué. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai travaillé le titre principal de l'offre et les titres de chaque module pour ne présenter que ça, en fait, et les modalités d'accompagnement en fin d'appel, et c'est beaucoup plus facile à retenir, du coup. Et la cinquième erreur, celle que t'attends depuis le début, c'est celle d'avoir donné une deuxième chance à quelqu'un qui m'avait ghosté déjà une fois. Donc c'est quand même une personne qui a une bonne hype sur LinkedIn, qui m'avait contacté pour du conseil en stratégie, pour revoir son positionnement, revoir son système de vente, etc. Parce qu'il était abonné à mes contenus, je crois que c'était sur Instagram. Justement, on était en contact sur Instagram et sur LinkedIn. Et donc moi, je lui dis, vas-y, pas de problème, tel jour, telle heure, on fait le point sur ta situation et je vois comment on peut travailler ensemble ou pas, si je peux t'aider, si moi je peux t'aider ou s'il te faut quelqu'un d'autre. Et du coup, on s'appelle. Je fais l'erreur numéro 2, donc je fais un appel d'une heure et demie, je crois que c'était même 1h40. C'était limite en fait une séance de consulting en tant que tel, c'était même pas vraiment un appel découverte. Et c'est pas gênant dans le sens où tu dis, ah bon, bah les gens, tu leur as déjà donné la solution, ils vont pas vouloir bosser avec toi, parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est long à mettre en place certaines stratégies. J'ai beau te dire là, demain fais ça, ça, ça. Tu vas me dire, ok, mais on fait comment? Tu vois, tu auras toujours besoin du comment. C'est pas le fait de trop en dire dans un appel de vente qui va te faire perdre le client, en tout cas de ma propre expérience. Et on en ressort vraiment avec du contenu, de la matière. Je suis assez content de ce que j'ai pu lui proposer. Tu vois, à l'époque, je me dis, le mec, c'est une grosse tête de LinkedIn, ça serait sympa de l'avoir en client, tu vois, de pouvoir dire, bah voilà, on a bossé avec un tel et tout. Donc moi, je lui fais ma proposition, je lui fais un mail avec le devis, tout ça. Donc il reçoit bien ma proposition, il m'écrit des messages sur Instagram pour me dire, voilà, j'ai bien reçu. Je te réponds rapidement. Sans surprise, il m'a jamais répondu, même après des relances. Tu sais, je suis pas rancunier, je continue de le suivre, je continue de regarder un peu son travail et tout. Et je vois qu'en fait, il change totalement sa stratégie. Il commence à utiliser les termes qu'on a évoqués pendant l'appel, qui sont clairement des termes qui sortent de mon cerveau. Genre, je reconnais ma manière de parler et je reconnais que la terminologie que j'ai utilisée a été utilisée dans son changement stratégique. Donc je me dis, bon, ça va, le gars, il s'est quand même fait plaisir, tu vois. Je l'ai aidé, entre guillemets, gratuitement. Je me dis, bon, c'est pas grave. On reste en contact sur les réseaux, sur Instagram, sur LinkedIn et tout, mais on est vraiment. On parle plus trop, tu vois. Et puis à un moment donné, je crois que c'est sur LinkedIn. Je sens qu'il est encore en pleine période de réflexion parce qu'il poste un peu des publications un peu énigmatiques. Je réponds à l'une de ses publications. Je dis, voilà, parce que dedans, il pose ouvertement une question. Il dit, voilà, comment vous me voyez? Est-ce que vous me voyez plus comme ça? Est-ce que vous me voyez comme ça? Du coup, moi, je lui réponds. La réponse qui pouvait l'aider à trouver son positionnement. Et du coup, il me recontacte. Merci pour ton commentaire. Je vais avoir besoin de toi. Tu as disparu une fois il y a un an et demi. Tu réapparais comme ça. Tu me dis, je vais avoir besoin de toi. Je me dis, bon, vas-y, je suis pas rancunier. Allons pour un deuxième appel. Tu as peut-être changé depuis, tu es peut-être voilà, une autre personne. Tu as peut-être changé depuis, tu as peut-être eu des empêchements incroyables qui t'ont empêché de me prévenir la première fois. Voilà, je trouve toujours des milliards d'excuses aux gens. Et donc, on se refait un appel. Donc là, entre-temps, j'ai mûri, bien sûr. L'appel, il dure, je pense, entre 30 et 40 minutes, un truc comme ça. Ça se passe bien pendant l'appel et tout, je le sens plutôt chaud et tout. Donc moi, je fonctionne avec un système, comme la première fois déjà, ça, je fonctionnais déjà comme ça, mais avec un système de devis péremptoire, en fait. Il y a une date de validité au devis. Parce qu'en accompagnement individuel, je ne peux pas accueillir un nombre incalculable de personnes. En tout cas, j'ai fait ce choix-là. Donc, réponds-moi à cette date, tu me dis oui ou non. Si c'est oui, on y va. Si c'est non, j'ai besoin de plus de temps, bah, du coup, réfléchis et potentiellement, je te refais un devis après avec une autre date de validité en fonction de mes disponibilités et du nombre de places qui me restent. Pas de problème. Et si c'est non, non, bah non, non. La date de validité, ça allait jusqu'à un vendredi, tu vois. Donc, on s'était eu vendredi au téléphone et ça allait jusqu'au vendredi d'après. Donc, ça laissait bien 7 jours pour bien réfléchir. Donc, on arrive au bout des 7 jours et donc, moi, je lui fais un message. Je lui dis, voilà, j'espère que tu vas bien et tout, tout va bien de ton côté. Juste pour te dire que, voilà, aujourd'hui, c'est la fin de la validité du devis. Est-ce que tu as pu te positionner ou pas? Et dis-moi ce qu'il en est, comme ça, s'il faut, on peut, si tu as des questions en suspens, on peut discuter. S'il faut refaire un devis avec une autre date, on le refera, c'est pas problématique. Et là, j'ai pas de réponse. Donc, je me dis, ah, il est encore mis à l'envers. Et donc, je laisse se passer encore une semaine. J'ai déjà laissé passer une semaine pour le premier délai de réflexion. Là, je laisse une deuxième semaine. Donc, juste par curiosité, je vais sur Instagram et je vois que le mec m'a unfollow. Genre, tu vois, il me suit plus. Genre, m'a supprimé de ses amis, m'a supprimé de ses followers et tout. C'est quoi ces gens? Genre, ils ont 30 ans, ils sont là, ils font des trucs d'enfants comme ça. Dis-moi non, on n'est pas peur de dire non. On est sur Facebook en 2010 ou quoi? Donc à ce moment-là, moi, ce que je me permets de faire, c'est que vu que sur LinkedIn, on était encore en contact, je lui dis voilà, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai vu qu'on n'était plus en contact sur Instagram. Tu vois, je lui dis pas, j'ai vu que tu m'avais unfollow et tout. J'aurais juste besoin de savoir ce qu'il en est pour toi par rapport à la proposition que je t'ai faite il y a 2 semaines. Peut-être que tu as eu des empêchements dernièrement, tu n'as pas pu trop me répondre et je peux le comprendre et tout. Et là, je lui dis, voilà, j'ai juste besoin que tu me dises oui ou non, si t'es partant pour travailler ensemble ou pas. Bref, je vous laisserai juger, mais j'ai quand même fait preuve quand même de diplomatie à plusieurs niveaux. Tu sais, je lui mets un petit clin d'œil à la fin, parce que j'utilise les emojis pour, tu sais, pour pas que le message soit froid, tu vois, juste lui dire, t'inquiète, on est ensemble, tout va bien, t'as un peu de retard, je suis compréhensif. Et là, je reçois un message vocal, mais incendiaire, sur Instagram, du coup. Il commence à très mal me parler, et il me dit à la fin, ouais, de toute façon, tes clins d'œil, tu te les gardes et tout. Il a mal pris mon clin d'œil, genre. À la suite de ce message incendiaire, je lui envoie un autre message, je lui dis, voilà, écoute, je pense qu'il y a un quiproquo, je pense qu'on s'est mal compris, je pense qu'une collaboration ne pourrait pas être fructueuse dans cette situation, donc je te propose de ne plus tenir compte de ma proposition et on ne va pas travailler ensemble, en gros. Et voilà, du coup, ça s'est terminé comme ça. Ne donnez pas de deuxième chance à quelqu'un qui vous a déjà ghosté, sauf si, bien sûr, il a des circonstances vraiment qui sont compréhensibles. La prestation n'a même pas commencé, t'es déjà dans le manque de respect. Alors, j'imagine même pas quand t'auras lâché 1 euro, tu vois. Là, tu m'as rien payé, t'es déjà dans le manque de respect. Donc voilà pour ces 5 erreurs. J'espère que tu feras pas les mêmes de ton côté. N'hésite pas à me partager en commentaire les erreurs que t'as pu faire ou les difficultés que tu rencontres actuellement dans des appels de vente ou dans ton process de vente. Je te répondrai en commentaire avec grand plaisir. Si tu veux recevoir plus de conseils business, voir ce sur quoi je travaille en ce moment, mes lectures personnelles et rentrer un peu plus dans l'univers, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram où je partage des conseils exclusifs qui sont disponibles nulle part ailleurs, en tout cas sur aucune autre de mes plateformes. Si vous m'écoutez au format podcast et également si vous pouvez mettre une petite notation 5 étoiles, ce serait vraiment Gucci, comme on dit aujourd'hui. Chaque like, chaque bonne notation que vous faites auprès d'un créateur de contenu, ça participe aussi à créer le monde de demain, parce que voilà, vous mettez en avant certains contenus vis-à-vis d'autres. Donc votez bien, je vous laisse avec cette patate chaude de la conscience et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.